Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Cyrus, je suis toujours à Essen 2017. Nous sommes le vendredi, on est le 27 octobre 2017. En compagnie de Nathalie qui fait partie de la société GECO. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors Nathalie, quel est ton poste chez GECO pour commencer, pour te présenter un petit peu?
Alors je suis responsable des jeux de société, c'est-à-dire que je m'occupe du développement de tous les jeux de société et des jeux de cartes chez GECO entre autres, parce que j'ai d'autres casquettes. Je m'occupe aussi des puzzles, des jeux éducatifs et un petit peu de la construction chez GECO.
Ok. J'ai vu que vous avez un beau stand ici à Essen. C'est la première année que vous venez ou pas?
Non, c'est la deuxième année qu'on est présent sur Essen. Et voilà, on est assez content d'être là et on espère que c'est le début d'une longue lignée d'Essen chez GECO.
Oui, c'est assez étonnant parce que ABBA ils sont allemands, donc ils sont là depuis très très longtemps. Alors l'année dernière j'ai pas fait attention, j'ai pas dû voir votre stand ou j'étais peut-être moins intéressé parce que maintenant j'ai un enfant de moi de 3 ans, donc ça commence à m'intéresser un petit peu ce domaine. Pourquoi, après tout ce temps, être venu à partir de l'année dernière en fait sur Essen?
Alors en fait, les jeux de société chez GECO, c'est pas si récent que ça. On a commencé il y a une dizaine d'années avec des jeux de cartes et des premiers jeux de plateau. Mais c'est depuis quelques années, on va dire 5-6 ans, qu'on essaye de faire en sorte que nos jeux soient plus connus. Parce que c'est vrai que GECO est surtout connu pour toute sa gamme de jouets et moins pour sa gamme de jeux de société. Et depuis 4 ans maintenant, on fait le festival des jeux de Cannes avec un stand chez GECO. Et voilà, et en fait, nos distributeurs allemands nous ont dit que ce serait une bonne idée de venir sur Essen parce que le jeu de société, c'est important pour les Allemands et que du coup, GECO n'avait pas une grande renommée en Allemagne. Et voilà, on s'est dit que c'était une bonne idée de démarrer cette aventure en Allemagne, sachant que Essen est un des plus gros salons du jeu de société, que ça pourrait toucher du coup et les Allemands et tout le reste du public des autres pays qui viennent visiter Essen. Voilà.
Ok, et est-ce que tu as déjà un retour là-dessus par rapport à l'année dernière? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'effectivement, en Allemagne, ça commençait à toucher un peu plus de monde, peut-être plus de voies de débouchés dans la distribution, plus de retours de la part peut-être même des clients même?
Alors, je suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup d'impact sur la distribution des jeux de GECO, des jeux de société de GECO en Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que en termes de renommée d'éditeur de jeux de société, le fait d'être à Essen, ça impose encore plus cette image qu'on commence à être un petit éditeur de jeux de société qui va commencer à compter, notamment dans le jeu enfant. Et après, savoir si ça a boosté les ventes des jeux de société en Allemagne, je saurais pas le dire exactement. Ça commence à aider, mais c'est pas encore un marché.
C'est pas encore un marché très important pour vous, quoi. Ok. Alors, GECO, on l'a pas précisé, mais c'est une société française.
Oui, c'est une société française basée à Paris. C'est une société familiale, vieille de plus de 60 ans. Ça a été créé par la maman de la personne qui est aujourd'hui à la tête de GECO, donc à savoir Frédéric Michel Dallès. Et voilà, c'est une société familiale qui fait des jeux et jouets. Alors au départ, vraiment beaucoup du jouet en bois, du jouet en carton, des puzzles, beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est une société française basée à Paris. On est assez fiers de ça. Voilà.
Ok, et du coup, est-ce que votre production est aussi relativement, j'allais dire locale, pas locale, mais est-ce que vous avez une production en Europe, en Chine, vous faites comment?
Alors la majorité des produits sont fabriqués en Chine. Il y a une production européenne sur les puzzles, en carton essentiellement. Après, sinon, la majorité des produits sont fabriqués en Chine.
Oui, on voit, vous avez... pour habitude d'avoir un matériel quand même assez abondant dans vos jeux. C'est ce qu'il faut pour les enfants, hein. C'est ce qu'on retrouve souvent effectivement dans les gammes de jeux pour enfants. Donc effectivement, je me posais la question si vous arriviez à faire autrement que d'aller en Chine.
Non, aujourd'hui c'est pas possible, vu que le but aujourd'hui dans nos produits, que ce soit les jeux de société ou le reste, c'est d'avoir un matériel vraiment de qualité, avec un prix aussi qui permet à toute personne de pouvoir acquérir un jeu ou un jeu de GECO. Du coup, aujourd'hui, voilà, la production reste chinoise et voilà.
Ok. Est-ce que tu as une vue du développement du marché du jeu pour enfants? Parce que vu des joueurs, on a le sentiment que c'est un secteur qui prend vraiment de plus en plus d'importance. On voit des éditeurs qui sont connus du public hardcore, on va dire hardcore gamer, qui se développent dans cette voie-là. On voit Yellow, par exemple, qui va chercher une gamme enfant. On voit Matago qui est allé chercher une gamme enfant aussi.
Alors, je pense qu'on n'a pas la même démarche dans la mesure où on vient pas à la base du jeu de société et qu'on vient à la base du jeu et du jouet enfant. Donc pour nous, c'est une évidence de rester dans ce domaine-là puisque c'est notre savoir-faire. Voilà, on n'a pas cette démarche de vouloir prendre un marché puisque c'est un marché qu'on a déjà par ailleurs sur nos autres gammes. Donc développer des jeux de société, pour nous à la limite, ça serait plutôt de se dire on va développer des jeux de société pour les plus grands. Ça serait peut-être plutôt ça notre challenge à nous parce qu'aujourd'hui on est reconnu pour des petits et moins pour les jeux pour les plus grands. Et je dirais que voilà, le challenge pour Jeco finalement, ça serait plutôt l'inverse. De dire, pour être reconnu en tant qu'éditeur de jeux de société, il faudrait éventuellement proposer des jeux pour les plus grands, plus gamers. Bon, après, c'est pas notre, c'est pas notre envie, puisque nous, notre cible, ça reste les enfants, les petits, et donc ça paraît tellement naturel pour nous de proposer des jeux enfants qu'on se pose même pas la question. C'est comme ça, c'est notre ADN, et voilà. Donc, bon, oui, certainement, il y a plein d'autres éditeurs qui essayent de partir sur le jeu enfant. Je trouve ça plutôt positif parce que, c'est bien de faire jouer les enfants, et que tous nos petits geeks et hard gamers, ils vont avoir des enfants, donc c'est bien de leur proposer des jeux pour eux aussi. Et voilà, et puis plus il y a de monde qui fait du jeu pour enfants, et plus il y a une richesse, plus il y a des auteurs qui vont s'attarder à essayer de trouver des mécaniques pour les enfants. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, et surtout pour les enfants, et c'est l'intérêt de toute façon.
Ok, alors là tu m'as donné plein de voix. Alors je sais pas si tu vas retrouver toutes mes questions. Alors j'avais une première question parce que tu dis notre challenge ce serait plutôt d'aller sur le jeu adulte. Et en fait c'était une de mes questions parce que j'ai vu sur votre stand un jeu donné à partir de 7 ans, un autre à partir de 8. Et j'ai l'impression que vous étiez monté en âge sur les jeux. Donc je me demandais si justement vous aviez pas comme pour volonté d'essayer d'aller vers alors peut-être pas adulte, mais au moins du jeu qui se partage, on va dire, avec les parents. Pour des enfants un peu plus grands, un peu comme ce que peut faire justement Abba qui est parti aussi un peu là-dessus.
Non, c'est pas l'objectif. Notre cœur de cible, ça reste les enfants. Après, le fait d'arriver avec des jeux à partir de 7 ans, à partir de 8 ans, c'est vraiment pour proposer des jeux qui vont se faire au niveau dans la famille et que finalement. Jouer avec un enfant de 8 ans, ça reste encore un enfant. On n'ira pas plus haut en tranche d'âge parce que d'abord, on n'a pas la distribution pour ça. Et puis aussi parce que voilà, c'est pas notre savoir-faire. Et que finalement, l'intérêt, c'est d'aller chercher des jeux à partir de 7 ans, à partir de 8 ans. C'est surtout pour amener la famille à jouer ensemble, à des jeux auxquels tout le monde peut s'amuser. C'est-à-dire qu'ouvrir aujourd'hui une boîte de Niwa ou un Poker Dice, c'est intéressant parce que tout le monde va s'amuser à jouer avec. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas quand on va ouvrir une boîte de Wolfie. C'est super sympa pour les petits, mais les parents ne vont pas forcément enchaîner 15-20 parties de Wolfie à la suite. Au bout d'un moment, ça va les agacer. Alors que faire 15 parties de Niwa à la suite, ça va gêner personne parce que c'est vraiment un jeu familial. Donc, on n'ira pas vers le jeu adulte parce que ce n'est pas notre savoir-faire. Mais par contre, oui, vers le jeu en familial, intéressant pour toute la famille, pour tous les membres de la famille, oui, mais pas au-delà de 8 ans. Je pense que voilà. Alors je dis pas jamais parce que je sais pas de quoi est fait demain, mais en tout cas, c'est aujourd'hui pas l'objectif. C'est l'enfant, la famille, mais pas au-delà.
Okay, c'est pas l'ordre du jour. Tu nous citais quelques jeux là justement. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns, peut-être les dernières sorties
Alors cette année est sorti un jeu qui s'appelle Niwa. C'est un jeu de la famille Fort, de Wilfried et Marie. C'est un jeu qui se joue à deux. C'est un jeu à partir de 7 ans. Et vraiment, pour le coup, voilà, c'est un jeu familial. Bon, à deux. Et en fait, c'est un petit jeu de déplacement. Donc, chaque joueur a trois poupées qui va essayer de déplacer sur un circuit pour essayer d'atteindre le temple adverse. Et pour se déplacer, ces poupées vont franchir des lignes colorées. Et en fait, elles ont sur la tête trois petites perles colorées. Et pour franchir une ligne d'une couleur spéciale, par exemple, pour franchir une couleur verte, il faut qu'elle ait au-dessus de sa tête une perle verte. Et donc, à chaque fois qu'elle va traverser une ligne colorée, elle va passer une perle à une autre de ses poupées. Voilà comment elle va se déplacer. Donc, c'est un petit jeu de stratégie assez mignon, assez facile d'accès, assez rapide à comprendre.
Ouais, j'ai eu l'occasion d'essayer tout à l'heure. Et alors, c'était un peu pour ça aussi que je me posais la question si vous vouliez partir sur du public un petit peu plus adulte, parce que c'est vraiment un jeu tactique pour le coup. Je connais pas très bien votre gamme, hein, je dois l'avouer, mais je pense pas que vous ayez déjà fait beaucoup de jeux de ce type-là auparavant, plutôt orienté jeu abstrait en fait. Et j'invite les gens qui sont amateurs de ce type de jeu à jeter un coup d'œil, parce que je pense qu'ils seraient pas naturellement venus chez vous dans votre gamme. Et le jeu me paraît plutôt intéressant. Voilà, j'ai fait un bout de partie, j'ai dû arrêter précipitamment. Enfin, j'ai dû arrêter un peu avant, mais voilà, ça me paraissait vraiment effectivement très tactique.
Bah, c'est un jeu effectivement qui est assez abstrait et en même temps qui est tellement facile d'accès, qui est finalement les règles sont très rapides et très très rapides à comprendre. Donc oui, c'est un jeu abstrait, mais en même temps, il est facile. Donc il y a beaucoup de stratégie à l'intérieur, enfin pas de stratégie mais de tactique. Mais il est quand même super facile d'accès. Et alors moi, je suis pas quelqu'un de très tactique et j'arrive quand même à y jouer avec plaisir. Donc voilà, c'est pas un jeu où il va falloir se poser 40 questions. Voilà, on peut y jouer sans se prendre la tête avec beaucoup de plaisir. Et c'est en ça que je pense qu'il a, il a pas plus pas moins là, sa place chez Djeko. Après, il nous a plu. On a eu un coup de cœur quand on l'a essayé. Voilà, on s'est pas posé de questions, il nous a plu, on l'a trouvé facile, et voilà.
Et le travail éditorial est vraiment réussi à mon goût dessus. Enfin, il y a des jolies petites poupées, les graphismes sont chouettes, voilà. Enfin, ouais, félicitations sur ce jeu en tout cas. Tu peux nous parler d'autres jeux, peut-être plus orientés, plus enfants peut-être, pour nos auditeurs parents.
Alors, il y a un autre jeu qui s'appelle Shop Shop. C'est un jeu de Alexandre Droit. Là, c'est un jeu aussi assez facile et en même temps assez technique. En fait, c'est une course-poursuite entre un chat et des souris. Les souris ayant comme objectif d'aller récupérer des morceaux de fromage, le chat ayant comme objectif d'aller manger toutes les souris. Voilà, donc c'est un jeu qui est semi-coopératif, qui peut se jouer à deux, auquel cas il y a un joueur qui va faire le chat et l'autre joueur qui va jouer les souris. Donc chacun joue avec son objectif, soit semi-coopératif quand à plus de joueurs, où un joueur va jouer le chat et les autres joueurs vont jouer en coopération les souris. Et voilà, c'est un jeu de déplacement assez simple. On lance le dé, on se déplace du nombre de cases indiquées par le dé et on retourne des tuiles pour voir si on peut trouver du fromage et le chat pour attraper les souris. C'est assez facile et en même temps, il y a un petit côté technique parce que il faut réussir à échapper au chat et pour le chat, il faut réussir à s'attraper ces quatre petites souris, donc c'est assez technique.
Oui, effectivement. Bon, on a fait un début de partie tout à l'heure aussi pour que je puisse voir un petit peu de quoi il est retourné. En tout cas, là aussi, hein, le matériel est vraiment très chouette avec une table pour mettre le chat au début de la partie, hein, le chat qui peut courir au-dessus de la table, les souris qui peuvent se cacher sous la table. Ouais, non, c'est plutôt bien réalisé. C'est donné à partir de quel âge, ça ?
Il est à partir de 6 ans, Shop Shop. Alors, pour le coup, que ce soit pour Niwa ou pour Shop Shop, tout le travail de développement du produit. Alors sur Niwa, les auteurs avaient sublimement fait le travail parce que les poupées, c'est leur idée. Les tuiles sont d'une forme assez spéciale, ce qui donne aussi, je pense, un petit peu un aspect sympa au jeu. Donc c'est vrai que là-dessus, ils avaient déjà bien bossé le prototype au départ. Après, nous, on a mis une petite patte. On a voulu garder les poupées en bois parce qu'on a trouvé que c'était sublime. Et voilà, et c'est vrai que l'illustrateur a fait un super travail. Et sur Shop Shop, c'est pareil. Le prototype qu'on a reçu était assez éloquent. Enfin, il était assez chouette. Donc, on n'a pas eu besoin d'inventer, en tout cas, beaucoup le matériel. Il était déjà là avant qu'on mette le nez dedans. Après, voilà, c'est un choix de matériel. C'est un choix de. Mais ça, c'est la charte Djeko qui fait que on essaye d'avoir un matériel sympa et de qualité. Mais j'avoue que sur ces deux jeux-là, voilà, le matos des auteurs était déjà super, super conséquent et donnait vraiment envie de jouer déjà à la base.
C'est bien, ça me rappelle la question que je voulais te poser tout à l'heure et que j'avais oublié. Parlons des auteurs. Je me rappelle, j'étais allé au Flip et au Flip, ils ont un trophée créateur. Et la personne qui s'occupait de ça, elle m'a dit, c'est dommage, on trouve assez peu de créateurs de jeux pour enfants. Pour participer à leur trophée en tout cas, Est-ce que tu fais ce constat aujourd'hui, quand on interviewe des éditeurs de jeux pour adultes, ils nous disent qu'ils croulent sous les propositions. Alors bien sûr, il y a des propositions de Monopoly révisé, de jeux de loi révisés, hein, mais bon, on peut voir en tout cas ici qu'il y a énormément de rendez-vous qui se font entre auteurs et éditeurs. Est-ce que toi, tu as cette impression que, il y a moins d'auteurs de jeux pour enfants que de jeux pour adultes?
Non, moi, alors après, je connais pas enfin, je connais pas le niveau, le nombre d'auteurs qu'il y a dans le jeu adulte, parce que voilà, c'est vraiment pas un domaine que je maîtrise bien. Pour le jeu enfant, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de propositions. Il y a beaucoup de choses différentes. Il y a de tout, hein. Il y a des choses très intéressantes, très différentes, et d'autres qui sont juste des copier-coller de choses déjà existantes. Moi, je trouve pas qu'il y ait personne. Je trouve que il y a plein de nouveaux, en fait. C'est peut-être moins des gens connus, c'est peut-être plus des artisans, on va dire, d'auteurs qui viennent nous voir. Mais non.
Globalement, c'est comme ça dans tout le milieu quand même, hein. Il y a quelques professionnels, mais il y en a très très peu qui vivent de ça. Tu me parlais d'Alexandre Droit. Il a entre guillemets fait ses armes dans les jeux pour adultes.
Ouais, alors voilà. Moi, bon, après, je sais pas forcément de quels horizons viennent les auteurs qui viennent nous proposer des jeux, si forcément ils ont fait d'autres choses avant dans le monde adulte ou pas. Moi, je trouve que dans nos auteurs à nous, il y a beaucoup de nouveaux, de premiers jeux, voilà, de premiers jeux qui n'ont, voilà, des gens qui n'ont jamais édité nulle part. On a aussi des gens qui ont déjà édité on parle de Marie et Wilfried Force, c'est pas leur premier Niwa n'est pas leur premier jeu, Chop Chop n'est pas le premier jeu d'Alexandre, etc. Il y a plein d'autres auteurs aussi qui en sont pas à leur premier jeu quand ils viennent proposer un jeu chez Gecko. Mais en tout cas, je trouve pas qu'il y ait une pénurie d'auteurs de jeux pour enfants.
Ok, bah écoute, tant mieux dans ce cas. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu rajouter?
Ben non.
Ok, ça le mérite d'être clair. Ok, bah écoute Nathalie, bah, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et puis bah, je te souhaite une bonne fin de salon et puis à bientôt peut-être.
Merci, bah toi aussi, une bonne fin de salon. Je suis bien contente d'avoir été interviewée.